Vous écoutez RTL. RTL Midi. Le 12-30, Christelle Robière.
Bonjour à tous, bienvenue dans RTL Midi. Et en ce mercredi 27 mars, le président Bouteflika, de plus en plus seul, lâché par le général Salah, le président algérien l'est aussi par son principal allié, le Rassemblement National Démocratique. Nathalie Loiseau n'est plus ministre des Affaires européennes. Elle a fait un geste d'au revoir symbolique à la sortie de l'Élysée et le remaniement se fait attendre. Dans RTL Midi aussi, des boîtes noires dans nos voitures à une vitesse qui s'adapte automatiquement. L'Europe veut imposer de nouvelles normes de sécurité routière, mais cela va-t-il coûter plus cher aux automobilistes? Nous verrons ce qu'en pense le représentant des constructeurs. Et puis nous irons à Lucinge, un petit village de Haute-Savoie. L'un de ses habitants a été victime d'un règlement de compte et ses concitoyens découvrent sidérés que c'était un ancien agent secret. L'homéopathie ne doit pas être remboursée, c'est ce qu'affirment les académies de médecine et de pharmacie. Son efficacité n'est pas prouvée. Nous verrons ce qu'en pense le président de l'Union des syndicats des pharmaciens d'officine. La météo, bonjour Patricia Charbonnier.
Bonjour.
Ensoleillé.
Oui, météo parfaite cet après-midi sur une large moitié sud du pays avec un petit peu de vent. Sur la moitié nord, c'est un petit peu plus nuageux et on aura encore de bons passages nuageux cet après-midi entre les Hauts-de-France, l'Île-de-France, la Normandie, les Pays-de-la-Loire. Et puis les températures sont de saison cet après-midi avec 11 degrés au Havre, 14 à Paris comme à Bourges, 16 à Lyon, 17 à Toulouse et 20 degrés à Perpignan.
La question du jour sur RTL.fr, la sécurité sociale doit-elle encore rembourser l'homéopathie? Vous dites oui à 54%, 38% de non. Le débat s'annonce intéressant. 3210, Pascal Praud.
Bonjour Christelle. Bonjour. Effectivement, l'homéopathie est-elle bidon, comme le dit l'Académie de médecine? Vous pourrez réagir et pourquoi pas témoigner. Faut-il être violent pour se faire entendre après ce qui s'est passé au Mans, les forains qui ont enflammé la ville et peut-être le mouvement des Gilets jaunes a-t-il contaminé aujourd'hui la société française? Et puis, autre sujet sur lequel vous pouvez réagir, la sécurité routière. Faut-il installer un limitateur de vitesse automatique? Et est-ce que les départements doivent décider eux-mêmes de la limitation de vitesse à 80 km/h? Rendez-vous 13h14.
RTL vous donne la parole.
L'Algérie est-elle à un tournant de son histoire? En tout cas, Abdelaziz Bouteflika est lâché tour à tour par les siens. Après le tout-puissant général Salah, le chef d'état-major de l'armée, le Rassemblement National Démocratique, principal parti allié du président, demande ce matin sa démission pour faciliter la période de transition. Pierre-Julien, quels sont les scénarios possibles désormais?
Déjà, que ce soit le général Ahmed Gaïd Salah, donc le chef d'état-major des armées, ou Ahmed Ouaya, le leader du Rassemblement National Démocratique, même s'ils ont appelé à la démission du président Bouteflika, ils appartiennent au système rejeté en masse par les manifestants. Nombreux sont ceux donc qui redoutent qu'ils fassent tout pour conserver les commandes et qu'une transition constitutionnelle dite provisoire ne devienne définitive. Ainsi, celui qui fut deux fois candidat contre Bouteflika, son ancien premier ministre Ali Benflis, veut amender l'article 102. Il a dit ce matin sur notre antenne:
l'article 102 était amendé pour permettre de recourir à un conseil constitutionnel que un président intérimaire pour quelques mois, une personnalité hors de tout reproche, puisse légiférer pour toute cette période et on peut arriver à l'élection tout à fait propre et honnête maintenant.
Oui, de manière déguisée, un candidat du pouvoir actuel pourrait être nommé comme s'il répondait aux espoirs de la population. On pense à Abdelkader Ben Salah, la tête depuis 17 ans du Conseil de la Nation, le Sénat algérien. Si des élections sont vraiment organisées, et alors que les partis islamistes semblent très divisés, les jeunes Algériens croient encore aux chances de Karim Tabou, Mustapha Bouchachi, et même de l'opposante Zoubiza Assoul. Voilà pourquoi ils vont maintenir leur pression dans la rue.
Pierre-Julien, au Mozambique, frappé ces derniers jours par un terrible cyclone qui a fait 468 morts, 5 cas de choléra ont été confirmés. C'est ce que redoutaient les autorités alors que les rescapés s'entassent par dizaines de milliers dans des centres d'hébergement de fortune. Elle a quitté à pied l'Élysée après avoir assisté à son dernier Conseil des ministres. Nathalie Loiseau n'est plus ministre des Affaires européennes, mais tête de liste LREM pour les élections du 26 mai. Mais bien des mystères demeurent. Olivier Bost, on ne sait toujours pas quand elle sera remplacée et si le remaniement se fera ou pas à minima.
Oui, il y a un poste vacant depuis maintenant deux bonnes heures. Nathalie Loiseau fera son premier grand meeting de La République En Marche samedi. Et pour ne pas polluer ce moment politique, selon plusieurs sources gouvernementales, elle n'aura toujours pas de remplaçant ou de remplaçante. Trois hypothèses courent chez les ministres pour reprendre le flambeau. Clément Beaune, le conseiller Europe à l'Élysée d'Emmanuel Macron. Il y a deux inconvénients pour cette solution. C'est un homme et le gouvernement ne respecte déjà pas la parité promise et il faudrait le remplacer à l'Élysée. Autre hypothèse, celle d'Emmanuel Vargon, Targon, secrétaire d'État à l'écologie, une parlementaire est aussi évoquée. Astrid Panosian, elle a travaillé avec Emmanuel Macron et fait partie des cofondateurs d'En Marche. Le remaniement pourrait aussi traîner un peu, vous me direz comme d'habitude, mais pour une autre raison, les sorts de Benjamin Griveaux et de Mounir Majoubi ne sont pas réglés. Les deux secrétaires d'État piaffent d'impatience pour se lancer dans la bataille de Paris. Si Emmanuel Macron décide de les laisser partir, eh bien il faudra faire entrer du sang neuf. Et alors là, entre les contrôles de probité qui prennent quelques jours et les hésitations d'Emmanuel Macron, eh bien on en reparle la semaine prochaine, si vous voulez bien.
Je le veux bien. Merci Olivier. Pression maximale sur le secrétaire général de l'Élysée, Alexis Kohler. RTL vous le révélait ce matin, l'association anticorruption Anticor a déposé une deuxième plainte contre lui pour avoir dissimulé des liens familiaux avec l'armateur italo-suisse MSC, ce qui pourrait constituer un conflit d'intérêts. La confiance en Alexis Kohler de la part du président est totale, a réagi ce matin le porte-parole du gouvernement Benjamin Griveaux. Le projet de loi de réforme de la fonction publique a été présenté en Conseil des ministres. Il devrait être adopté avant l'été. Le texte prévoit de favoriser la mobilité des agents, un recours accru aux contractuels, la possibilité de faire des ruptures conventionnelles comme dans le privé. L'objectif est toujours de réduire de 120 000 le nombre de fonctionnaires d'ici à 2022. Cet objectif a été réaffirmé ce matin. 9 syndicats appellent à manifester aujourd'hui devant les préfectures. À Paris, c'est à proximité de l'Élysée où Éric Vanier a rencontré Raphaël, fonctionnaire au ministère des Sports.
C'est un projet de casse des services publics avec les primo-mérites, les externalisations de services, le recours aux contractuels. Le but du jeu, c'est juste d'affaiblir les services publics en fait, en réduisant le nombre de fonctionnaires, en cassant encore une fois les services. Finalement, ça fait que déstabiliser les agents de la fonction publique, mais aussi et surtout, ça va impacter les usagers et les usagères, c'est ça le problème. Là aujourd'hui, c'est un peu la loi travail numéro 3 qui impacte maintenant la fonction publique et les services publics.
Encore un peu de suspense pour les 280 salariés de la scierie Ascoval de Saint-Saulve dans le Nord. Le tribunal de Strasbourg a donné à la scierie un nouveau délai jusqu'au 24 avril pour trouver un repreneur. Deux dossiers de reprise, britanniques et italiens, prévoient une reprise totale de l'activité et du personnel. Dans un instant, une boîte noire dans votre voiture.
RTL Midi avec Christelle Rebière.
La limitation à 80 km/h va-t-elle encore tenir la route? Les sénateurs ont adopté un amendement au projet de loi mobilité pour laisser le choix aux présidents de conseils départementaux et aux préfets de revenir, s'ils le souhaitent, au bon vieux 90. De toute façon, Emmanuel Macron avait déjà laissé entendre lors du grand débat que ça sentait la fin, souvenez-vous.
Je pense qu'on ferait une bêtise à dire on abandonne nos exigences de sécurité. Ça, c'est pas une bonne idée. Par contre, dire on pense qu'on a des propositions plus intelligentes, mieux acceptables pour la population et qui seraient tout aussi efficaces. Parce que nous, on sait quel est le tronçon qui est dangereux, quel est celui qui ne l'est pas ou autre. À mon avis, peut-être qu'on peut y arriver.
Voilà, il avait été applaudi à l'époque, Emmanuel Macron au micro RTL d'Olivier Bost. Et l'Europe, elle, se préoccupe de notre sécurité. En 2017, plus de 25 000 personnes ont trouvé la mort sur les routes européennes. Un comité parlementaire vient de proposer 19 mesures. Nos véhicules, Christophe Bourreau, nos véhicules vont être prudents à notre place.
Ah oui, puisqu'on estime que dans 90% des accidents, eh bien, le comportement des automobilistes est en cause. Ainsi, pas moins de 19 fonctions sont reconnues. Cela va du freinage d'urgence automatique aux assistances de maintien dans la voie, avec aussi des systèmes pour lutter contre l'endormissement au volant. Et cela va également concerner les camions et les autobus qui, par exemple, devront adopter des technologies pour supprimer les angles morts. Alors, si beaucoup de ces systèmes existent déjà sur certains modèles, en revanche, grosse nouveauté avec l'arrivée de l'enregistreur de données et qui risque forcément de faire débat, puisque cela revient grosso modo à installer une boîte noire dans la voiture, mouchard qui enregistre tout, hein, de votre vitesse à votre façon de conduire, et qui peut être utilisé en cas d'accident par les forces de l'ordre. C'est déjà le cas dans d'autres pays comme aux États-Unis ou en Russie. Et deuxième nouveauté, la possible arrivée du limiteur de vitesse dit intelligent. Relié à votre GPS, il reconnaît les panneaux et peut réduire automatiquement votre vitesse si vous roulez au-delà des limites. Tous ces systèmes qui devront arriver, eh bien, ont un objectif pour la Commission européenne, sauver plus de 25 000 vies d'ici à 2038.
Et pour aller plus loin, nous sommes avec François Roudier du Comité des constructeurs français d'automobiles. Bonjour.
Bonjour.
Est-ce que techniquement, comme le dit Christophe, vous êtes prêt à mettre en place tous ces systèmes ou pas ?
Alors, techniquement, ce qu'il faut voir, c'est que ces systèmes existent déjà. Mmh. Vous les avez en option dans beaucoup de véhicules, et même d'ailleurs sur de l'entrée de gamme. Je pense à des véhicules d'entrée de gamme qui ont une caméra de recul, ce qu'on trouve, bien sûr, dans tout ce qui est suréquipé. Mmh. Mmh. Ce qu'il faut voir, d'abord, il y a quelques incompréhensions dans ce qui a été dit par la Commission européenne. Le limiteur de vitesse est comme un limiteur de vitesse actuel, c'est-à-dire qu'en écrasant la pédale en cas de risque, il se déconnecte automatiquement. Donc, il bloque pas complètement le véhicule. Oui. Vous avez aussi un autre point sur l'éthylotest. On va pas installer un éthylotest dans chaque véhicule. On installe seulement la prise possible pour un éthylotest dans le cadre de condamnation tel qu'on le connaît en France.
Oui, aujourd'hui, ça coûte très cher.
Coûte très cher, et si vous l'avez sur une vieille 309 GL, c'est quasiment impossible. Voilà. Donc là,
en même temps, il n'y en a plus beaucoup sur le marché. Non, mais on en vient à la question principale. Est-ce que tout ça, ça va coûter plus cher à celui qui achète une automobile? Parce qu'aujourd'hui, la plupart de ces systèmes sont en option.
Oui, le risque est un peu ce qu'on appelle, nous, le surarmement. C'est-à-dire que si on se retrouve avec des véhicules qui seront des petits bijoux en sécurité avec toutes les options, on risque de faire très peur à certains clients, et du coup d'avoir un contre-effet, c'est-à-dire qu'on va sortir toute une partie de clients qui auraient pris peut-être des véhicules plus modernes, plus sûrs, qui pourront plus les acheter et qui vont garder des très vieux véhicules.
Donc ça veut dire qu'automatiquement le prix des véhicules va augmenter à l'achat.
Le prix des véhicules peut augmenter en fonction du nombre d'options. Si vous prenez bien sûr toutes les 15 options, oui, évidemment. Si on a progressivement que certaines, c'est un peu moins évident. Ce qu'il faut voir pour nous, et on en parle au niveau de l'association européenne des constructeurs, c'est que c'est très bien d'avoir une voiture très sûre, mais ça suffit pas. Il faut qu'il y ait une politique vraiment globale de sécurité routière, avec des routes qui soient vraiment bien entretenues, et puis qu'on soit pas dans un système où on affranchit complètement le conducteur de sa responsabilité.
De ses responsabilités, voilà. Oui, bien sûr.
Donc la nécessaire implication du conducteur reste primordiale.
Ben justement, la boîte noire, ça va pas l'exonérer de ses responsabilités.
Alors la boîte noire, il faut voir ce que c'est que cette boîte noire. D'abord, c'est pas une boîte noire d'Airbus, je sais pas. C'était Boeing actuellement, c'est un peu délicat, mais c'est un petit peu moins complexe. Vous l'avez effectivement dans certains pays, comme l'a cité Christophe Bourreau en Russie, parce que si vous avez un accident, vous devez prouver visuellement ce que vous avez eu. La boîte noire, vous la retrouvez dans beaucoup de véhicules professionnels, beaucoup de véhicules utilitaires ont déjà des systèmes qui regarde exactement comment vous conduisez.
Oui, mais là, parle de liberté individuelle. Ça va être une polémique infernale.
Exactement. Et lorsque vous conduisez un véhicule professionnel, je pense que même chez RTL, vous avez ça, vous devez signer un papier comme quoi vous acceptez que vos données soient utilisées. Si c'est votre voiture, ça veut dire que chaque législation d'un pays européen doit l'adapter à son système de protection des données. Là, c'est un petit peu plus difficile. Et je pense que c'est le sujet qui va être le gros sujet en débat, la protection des données, l'accès aux données par les services publics, par les forces de l'ordre.
Et peut-être aussi un jour par les assureurs.
Hein. Et voilà, par le privé.
C'est ça aussi le fond du problème, c'est que derrière, on a peur que les assurances augmentent.
Voilà, et jusqu'où va la commercialisation de ces données du conducteur. Donc c'est là où le bât blesse sûrement et où il y aura quand même encore quelques années de travail sur le sujet.
On n'est même pas sûr que ça voie le jour un jour.
Je pense
qu'à 27, on sent bien que ça ne va pas être facile.
Alors c'est compliqué à 27, mais on voit quand même que les conducteurs aiment avoir le plus de sécurité possible et pouvoir négocier vis-à-vis de leur assurance.
Juste une dernière question. La sécurité, aujourd'hui, c'est un critère essentiel dans l'achat?
C'est souvent le deuxième ou troisième critère, mais ça reste un critère essentiel. Le premier critère, vous savez, c'est le prix, la consommation. Et ça l'est comme ça depuis 1973.
Merci François Roudier du Comité des constructeurs français d'automobiles. Restez avec nous parce que l'histoire qui va suivre vous intéresse. Une équipe de voleurs de carburant a été démantelée lundi en région parisienne par les gendarmes. Ça faisait des semaines qu'ils se servaient gratuitement à la pompe, en tout plus de 120 000 litres, grâce à une télécommande miracle. C'est-à-dire, Nicolas Burnand?
Eh bien, il s'agissait d'une télécommande pirate achetée directement sur Internet sur un site illégal. Elle permettait de désactiver à distance le système de sécurité de certaines pompes et de retirer gratuitement du carburant. En quelques mois, 150 000 euros d'essence et de gazole ont donc disparu sans effraction ni siphonnage. Les malfaiteurs passaient à l'action de nuit dans de petites stations isolées au bord de routes départementales d'Île-de-France. Pour revendre le carburant, ils donnaient rendez-vous à des automobiles automobilistes trouvaient eux aussi sur Internet. Ils diffusaient des annonces dans des groupes privés sur les réseaux sociaux. Les voleurs utilisaient également des fourgons équipés de cuves aménagées pour écouler ensuite le précieux liquide dans des cités du Val d'Oise et de Seine-Saint-Denis. Mais au fil des vols, début 2018, Total, le propriétaire des stations-service, finit par détecter la fraude et avertit les gendarmes. Il multiplie alors les surveillances et les expertises téléphoniques. Un an et demi d'enquête pour remonter jusqu'à cette équipe de voleurs. Cinq hommes âgés entre 30 et 50 ans, connus pour de petits délits. Ils doivent être mis en examen aujourd'hui pour vol en bande organisée et vol de carburant.
Incroyable, une véritable économie parallèle. Dans un instant, un très étrange règlement de compte.
RTL Midi avec Christelle Rebière.
Un règlement de compte peu ordinaire, pas de grand banditisme ni de trafic de drogue. Un homme de 58 ans a été tué de 5 balles il y a 6 jours sur un parking de Balaison en Haute-Savoie et on découvre en fait qu'il s'agit d'un ancien agent secret. Il avait été mis en examen il y a 6 mois pour avoir planifié l'assassinat d'un opposant politique au président de la République démocratique du Congo. Et dans son village, Serge Pueyo, les habitants sont éberlués par cette affaire.
Oui, ici à Lucinge, les habitants du village sont sous le choc. Tout le monde se demande comment Daniel Forestier a pu ainsi être exécuté de 5 balles. L'homme était père de famille. À la fin de sa carrière à la DGSE, il avait tenu le bar tabac du village, organisé des concerts. Il avait même été conseiller municipal jusqu'en septembre dernier. Il s'occupait du comité des fêtes. Ses voisins sont inconsolables.
Ah oui, on peut vous dire que ça nous a foutu un coup. Très très bon voisin, il n'y a que ça à dire. Très gentil, des gens comme ça, il n'y en a pas beaucoup.
Vous lui avez amené des fleurs récemment?
Oui, une pivoine.
Vous l'avez vu une heure avant son assassinat?
Oui, parce qu'il est venu nous amener cette fleur. Il est parti, c'était fini quoi.
Quand il y a une fête au village, il faut toujours des bénévoles et il en faisait toujours partie. Tout le monde l'aimait, oui.
Vous ne saviez pas que c'était un ancien agent secret?
Non. Je l'ai appris, je ne le savais pas.
Daniel Forestier a-t-il été entraîné dans des opérations de barbouze? Lui qui avait une grande expérience du terrain après son passage au service action de la DGSE, a-t-il été rattrapé par son passé? L'enquête de la police judiciaire de Lyon s'annonce longue et difficile.
Trois personnes vont être jugées en comparution immédiate aujourd'hui à Bobigny pour avoir tenté de lyncher des Roms à la suite d'une rumeur sur les réseaux sociaux qui les accusait d'enlever des enfants. La préfecture de police a dû redire hier encore qu'il s'agissait de fausses informations et qu'il ne fallait pas les relayer. Nicolas Sarkozy, en tant que président, avait pour habitude de se rendre chaque année sur le plateau d'Aiglières en Haute-Savoie au lieu de la résistance. Eh bien, il s'y rendra dimanche à l'occasion du 75e anniversaire des combats, mais il sera cette fois l'invité d'Emmanuel Macron. Une centaine de maquisards y avaient été tués en 1944. L'homéopathie est-elle vraiment efficace? Il y a un peu plus d'un an, une tribune signée par 124 médecins dans le Figaro avait déclenché un vrai débat. Cette fois, l'Académie de médecine et l'Académie de pharmacie considèrent que cette médecine douce n'est pas un médicament, qu'elle relève de l'effet placebo. Or, aujourd'hui, l'homéopathie est remboursée à 30% par la Sécurité sociale, mais ça pourrait changer évidemment, Virginie Garin.
Oui, alors Agnès Buzyn, la ministre de la Santé, a demandé une évaluation scientifique précise à la Haute Autorité de Santé pour savoir s'il y a bien un impact médical de l'homéopathie. On aura la réponse en juin, mais la ministre est plutôt sceptique sur cet impact et sur cette efficacité des médicaments homéopathiques. Donc on peut craindre effectivement un déremboursement au mois de juin. On aura la réponse effectivement dans quelques semaines. La ministre qui avait dit qu'elle-même, en tant que médecin, aurait du mal à prescrire ce type de produit. Voilà, donc il faudra attendre l'avis de la Haute Autorité de Santé au mois de juin prochain.
Merci Virginie. Nous sommes avec Gilles Bonnefond. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le président de l'Union des syndicats de pharmaciens d'officine. C'est la première fois que l'Académie de pharmacie prend officiellement position contre l'homéopathie. Vous êtes surpris?
Oui, je suis assez surpris parce que je trouve le rapport assez sévère. C'est un petit peu coupeur de tête procureur, sachant que l'homéopathie est utilisée par beaucoup de Français, pas toujours, parfois prescrite par des centres hospitaliers pour accompagner des chimiothérapies ou des personnes, des femmes enceintes ou en allaitement, ou parfois cette alternative thérapeutique peut être utile. Alors on peut avoir un débat sur l'efficacité scientifique, mais pour certaines personnes, cela convient parfaitement bien. Et je pense qu'il faut être prudent sur des rapports très sévères et très sanctions, comme le rapport de l'Académie de médecine ou de pharmacie.
Mais il a des mots très durs, hein, Jean-Luc Delmas, l'ancien président de l'Académie de pharmacie. Il dit que l'homéopathie n'est pas un médicament. Il dit qu'il faut arrêter de mentir au consommateur qui est le patient. Donc selon vous, il se trompe quand il dit ça?
Je dis que tant on s'adresse à des patients, la science n'est pas la seule règle. Il y a aussi la façon dont le patient adhère à son traitement, à la confiance au traitement. Et moi, je vois aujourd'hui des patients qui se détournent des traitements classiques pour aller sur des médecines alternatives. L'homéopathie est une alternative à l'allopathie, mais au moins elle est sécurisée, encadrée. Si elle n'est pas efficace, au moins elle n'est pas nocive. Alors que d'autres alternatives thérapeutiques sont beaucoup plus dangereuses. Et d'ailleurs, les académies de médecine et de pharmacie devraient s'intéresser à ces nouvelles pratiques qui sont déviantes, parfois sectaires, et extrêmement et beaucoup plus dangereuses que l'homéopathie.
Quelles seraient, selon vous, les conséquences d'un déremboursement pour les patients? Donc, on saura au mois de juin quelle sera la décision du ministère de la Santé. Qu'est-ce que vous en pensez, vous?
Je pense que ce sera une erreur parce que ça coûte très cher de dérembourser parce que les prix vont augmenter. Et donc les patients qui utilisent régulièrement, s'ils voient le prix du tube granule ou tube dose multiplié par 4, ça fera des dégâts politiques au niveau du gouvernement. Il y a une alternative qui pourrait être faite, ça peut être une solution de compromis, c'est qu'aujourd'hui, ces médicaments sont remboursés à 30% par le régime obligatoire, par l'assurance maladie. S'ils étaient remboursés à 15%, avec un système de franchise à la boîte comme ça existe aujourd'hui, en fait, le régime obligatoire ne rembourserait plus rien. Par contre, les prix resteraient encadrés. Et si des complémentaires souhaitent prendre en charge l'homéopathie qui ne coûte pas cher et qui n'arrête pas de diminuer, tous les ans, on perd 10% d'unités. Donc, ça pourrait être une solution de compromis qui permettrait de maintenir les prix et de ne pas avoir d'augmentation et en même temps de répondre aux souhaits d'Agnès Buzyn que le régime obligatoire, que l'assurance maladie ne les rembourse plus en raison de la franchise. Mais je pense qu'il faut aller doucement et ne pas être censeur comme on voit les débats.
Donc ne pas passer de 30% à zéro, vous vous dites en gros coupons la poire en deux, essayons le 15%. Vous disiez tout à l'heure ça coûte très cher, mais ça coûte très cher à la sécurité sociale, peut-être pour rien finalement.
Oui, mais vous savez, il y a beaucoup de choses qui coûtent cher à la sécurité sociale par non-respect des règles de prescription, par non-respect des recommandations. Il y a beaucoup de choses qui coûtent cher. Et je pense que l'homéopathie, dans ce qui ne devrait pas être remboursé, est vraiment quelque chose de très minime. Donc, par contre, ça répond à un besoin de certains patients ou de certaines situations. Et je pense que le fait de le passer à 15%, ça décharge l'assurance maladie. Et si les complémentaires veulent continuer à le rembourser dans le cadre des contrats, ce qu'elles souhaitent parfois, eh bien, on n'aura pas un dérapage sur les prix, ce qui m'apparaît être la chose qui serait la plus dangereuse, à la fois politiquement et à la fois au niveau des pharmaciens et des médecins qui se verraient un petit peu sur des augmentations qui ne seraient pas justifiées pour eux.
Donc, passer le remboursement de 30% à 15% sur l'homéopathie, c'était votre proposition. Merci Gilles Bonnefond d'avoir été l'invité d'RTL Midi. Je rappelle que vous êtes président de l'Union des syndicats de pharmaciens d'officine. Bonne journée. Et on retrouve Pascal Pro avec qui vous allez dialoguer au 32-10 dans quelques minutes. Pascal.
Je trouve que c'est plutôt intelligent si on donne le pouvoir aux préfets ou aux conseillers départementaux de savoir si on doit rouler à 80 km ou pas. Et c'est vrai que c'est une question de bon sens. Ils connaissent les routes, ils connaissent le circuit, ils connaissent aussi les habitants, donc ça me paraît intelligent. C'est la décentralisation telle qu'on l'aime, avec intelligence. Vous pourrez évidemment vous exprimer sur ce sujet. Faut-il être violent pour se faire entendre? C'est une question. L'homéopathie est-elle bidon? C'est une autre question. On peut parler, si vous le souhaitez, des élections européennes. Est-ce que ça vous passionne? Rendez-vous dans une seconde.
À tout à l'heure. On peut dire que c'est une belle journée de printemps aujourd'hui, Patricia Charbonnier.
Pour la moitié sud du pays, le ciel est parfaitement dégagé, c'est très ensoleillé. On a un petit peu de vent quand même, notamment en vallée du Rhône, jusqu'à 70 km/h en rafale. Le problème sur la moitié nord, c'est pas tout bleu. On a quelques passages nuageux.
C'est assez
moyen.
Et
par endroits, les passages nuageux sont quand même très, très encombrants entre les Hauts-de-France, l'Île-de-France, la Normandie et localement sur les pays de la Loire. Mais ça reste un temps sec avec des températures qui sont de saison pour cet après-midi. 11 degrés au Havre, 14 à Paris et Bourges, 15 à La Rochelle, 19 degrés à Nîmes et 20 degrés à Perpignan.
Et demain, tout même, pareil.
Tout pareil, avec du grand soleil sur la moitié sud et sur la côte atlantique. Et toujours des problèmes de grisaille sur la moitié nord du pays. Demain matin, toujours entre les Hauts-de-France, la Normandie, l'Île-de-France, les Pays-de-la-Loire. Plus d'éclaircies dans l'après-midi sur la moitié nord, avec encore des gelées demain matin. Moins 2 degrés à Nevers, 1 degré à Rennes et Montauban, 8 degrés à Nice et de 12 à 20 dans l'après-midi. Ça grimpe encore un petit peu avec 15 degrés à Paris et Nancy, 17 à Lyon et Ajaccio. Et pour ce week-end, c'est un très beau samedi qui s'annonce. Vendredi, de plus en plus de soleil. Samedi, une journée très printanière avec des températures et à partir du dimanche, eh bien là, ça va se dégrader sur la moitié nord du pays avec un petit peu de pluie sur le quart nord-est, des températures qui vont baisser.
Ce sera le début de la semaine prochaine.
Ce sera le retour d'un temps très instable avec un petit coup de froid tardif pour la saison.
On commence à se préparer psychologiquement. Merci Patricia. Dans un instant, le rappel des titres avec Bénédicte Tassard.
Tout info, des auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec vous Bénédicte Tassard, bonjour.
Bonjour, bonjour à tous. Ils n'en peuvent plus d'attendre les 280 salariés d'Ascoval. Ce matin, le tribunal de Strasbourg a encore une fois reporté sa décision, se donnant jusqu'au 24 avril pour décider de l'avenir de l'acierie de Saint-Saulve. Trois nouveaux repreneurs sont sur les rangs après la défection surprise du groupe franco-belge Altifort. D'accord, réplique Bruno Kobzinski, porte-parole des salariés, mais le 24 avril, il faut une décision.
Le message qu'on voulait faire passer, nous, au tribunal, c'était qu'il fallait qu'on aille maintenant vers une date définitive, parce que ça devient très, très difficile pour les salariés. On a des dossiers déposés, des offres industrielles, des lettres d'intention. La balle est dans leur camp. Ils savent qu'il y a un délai, qui est le 24 avril. Il n'y aura pas de report, ça sera une audience finale. Ah, c'est aujourd'hui humainement très difficile et psychologiquement, on est borderline. On est vraiment à bout.
Bruno Kobzinski ce matin à Strasbourg au micro RTL de Yannick Holland. 300 000 euros versés par le CHU de Rennes à la famille d'un patient décédé des suites d'une maladie nosocomiale en 2011. C'est la décision du tribunal administratif de Rennes. L'homme, père de deux enfants, devait subir une transplantation cardiaque, mais il est mort d'une pneumonie 4 jours plus tard. Pour les experts, il y a eu des retards dans le diagnostic et des erreurs dans le traitement. Les fonctionnaires dans la rue aujourd'hui à l'appel de leurs 9 syndicats pour protester contre le projet de loi de réforme de la fonction publique sur la table du Conseil des ministres. Aujourd'hui, à l'issue du Conseil, le porte-parole de l'Élysée est aussi revenu sur la troisième plainte qui vise aujourd'hui son collègue, le bras droit d'Emmanuel Macron, Alexis Kohler. Plainte de l'association anticorruption Anticor sur les liens familiaux du secrétaire général de l'Élysée avec l'armateur MSC. Selon Benjamin Griveaux, Emmanuel Macron ne doute pas de son numéro 2.
Le président de la République a auprès de lui Alexis Kohler depuis le premier jour et la confiance d'Alexis Kohler de la part du président de la République est totale.
Benjamin Griveaux à l'Élysée avec Olivier Bost pour RTL. C'était le dernier conseil des ministres pour Nathalie Loiseau qui passe du ministère des Affaires européennes à la tête de liste LREM pour les européennes. Le remaniement devrait traîner plusieurs jours. Le président algérien Bouteflika a poussé un peu plus vers la sortie après le chef d'état-major de l'armée hier. C'est le RND, le parti principal allié de Bouteflika, qui réclame la démission du chef d'État affaibli par la maladie et qui s'accroche au pouvoir. Adrien Rabiot, attendu cet après-midi par la direction du PSG, le joueur mis à pied à titre conservatoire depuis le 14 mars dernier. Une sortie en boîte de nuit le soir de l'élimination de son club en Ligue des Champions, mais aussi un like malvenu d'une vidéo de Patrice Evra sur les réseaux sociaux. Pas trop de suspense, Philippe Sanfourche, le joueur devrait être licencié.
Oui, procédure usuelle en entreprise, mais rarissime dans le milieu du foot. Adrien Rabiot, mis à pied depuis le 14 mars dernier, a dû couper tout contact avec le club. Interdit de centre d'entraînement, il entretient seul sa condition physique. Il a surtout préparé depuis 10 jours sa défense avec son avocat, soutenu également par l'UNFP, le syndicat du foot professionnel. Licenciement ou simple blâme, la décision du club ne sera de toute façon pas officialisée avant 2 jours, c'est la loi. Adrien Rabiot et son entourage, qui estiment être victimes de harcèlement de la part du PSG, ont d'ores et déjà prévu de se retourner contre le club via les instances sportives et la commission juridique de la Ligue. Mais pourquoi pas aussi devant le Conseil des Prud'hommes, si la notion de faute grave est définitivement retenue.
Philippe Sanfourche du service des sports de RTL. La Bourse de Paris, on fait le point à la mi-journée avec Sylvie Aubert d'Investir les Échos. Bonjour Sylvie.
Bonjour Bénédicte.
Et aujourd'hui, les boursiers sont méfiants.
un peu plus qu'hier, oui, parce que maintenant, le CAC est complètement stable. À 5302 points, les investisseurs sont un peu plus préoccupés par le manque de croissance, notamment en Europe, où les signes de ralentissement se multiplient. Le président de la Banque Centrale Européenne, Mario Draghi, qui s'exprimait ce matin, a lui aussi pointé ce problème. Il se dit prêt, si nécessaire, à reporter encore dans le temps le premier relèvement de taux d'intérêt en Europe. Sur le marché obligataire, le taux allemand à 10 ans est toujours en territoire négatif. Ça signifie tout simplement que si vous achetez de la sécurité, c'est-à-dire que vous achetez de la dette allemande, eh bien, vous perdez de l'argent. Aujourd'hui, c'est Renault qui se distingue au CAC 40. Selon le Financial Times, le constructeur souhaite relancer les discussions avec Nissan en vue d'une véritable fusion d'ici à 12 mois. Première étape avant une offre éventuelle sur Fiat Chrysler. Les deux titres gagnent 3%, Renault à Paris et Fiat Chrysler à Milan.
Merci Sylvie, Sylvie Aubert d'Investir les Échos. Une pause et dans un instant, à vos téléphones, Pascal Praud et les standardistes des auditeurs ont la parole, vous attendent au 3210.